Cap Sport.
Cap Sport. Cap Sport.
Cap Sport. Cap Sport.
Après le hockey sur glace et avant le basketball, c'est le volleyball qui s'attaque au dessert de sa saison. Les playoffs du championnat de Liga s'ouvrent ce week-end. Le NUC et le volleyball Franche-Montagne ne veulent pas manquer ce rendez-vous. Eux rentrent de Russie. Les universiades d'hiver se sont terminées en début de semaine en Sibérie. Ce grand rassemblement de sportifs étudiants a pris des airs de Jeux Olympiques. Rencontre avec deux participants qui ont encore la tête dans les étoiles. Et puis on saute dans un baquet en fin d'émission. Ce week-end marque le retour du championnat de Formule 1. Nouvelle saison, nouveau règlement, mais toujours le même favori. Que faut-il en attendre? François Comte nous livrera son analyse.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bonsoir, c'est donc le début de la partie de saison la plus palpitante pour les volleyeuses du pays. Les playoffs de Liga s'ouvrent demain avec l'entame des quarts de finale. Le NUC va défier Lugano alors que le volleyball Franche-Montagne sera opposé à Kanti Schaffhouse. L'occasion d'évoquer l'actualité du volleyball féminin avec vous, Jo Gutknecht, bienvenue.
Bonsoir.
Présidente du NUC et manager de la formation de Liga. Du côté du VFM, c'est Benoît Gognat qui est avec nous ce soir dans Cap Sport. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Ancien président et désormais manager de la Liga. Alors les deux clubs de l'arc jurassien qui sont partis clairement, je crois qu'on peut le dire ainsi, pour faire mieux que la saison dernière. Cinquième rang final pour le NUC. Là vous partez favorite face à Lugano en quart de finale. Jo Gutknecht, ce sont les départs de Voler Zurich et de Könitz finalement qui permettent de prétendre à mieux cette saison?
On peut parler essentiellement du départ de Voler Zurich. Je pense que Könitz, déjà la saison passée, n'était pas dans les places de tête du championnat. Mais oui, c'est en tout cas un championnat très, très ouvert et on se réjouit d'entamer cette phase essentielle de notre championnat.
C'est un peu pareil hein, de votre côté, Benoît Gognat, le VFM qui a pris le 7e rang l'an dernier au terme des playoffs. Là, avec la 6e place au terme de la saison régulière, on ambitionne forcément un résultat un peu meilleur au final?
Ben oui, puis la participation aux playoffs, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, il s'agit d'un dessert sur lequel on aimerait bien poser une cerise sur le gâteau si c'est possible, mais voilà, c'est un nouveau championnat qui commence et puis ben, dans le sport, tout sport confondu, la partie des playoffs est quelque chose de forcément palpitant.
Mais vraiment, on n'y pense plus du tout à cette saison régulière au moment d'arriver dans les playoffs?
Non, je crois qu'effectivement c'est le cas. Il y a comme une page qui se tourne et puis là, on se met, comme on le dit, en mode playoff et un peu tout repart à zéro. C'est clair qu'il va revenir des émotions, surtout que nous, on va jouer contre Schaffhouse, contre une équipe contre laquelle il y a eu pas mal d'événements durant le tour qualificatif. Mais souvent d'ailleurs en notre faveur, donc c'est plutôt positif. Et puis on va de l'avant.
Du côté du NUC, Jo Gutknecht, faudra aussi gérer la finale de Coupe de Suisse qui approche dans deux semaines. Deux événements comme ça à gérer de front, c'est vraiment réalisable?
Oui, bien sûr, c'est difficile, c'est important. Je crois que nous, on a décidé de prendre les choses les unes après les autres, de préparer ce match contre Lugano, l'acte 1, comme un match en soi, et l'acte 2 comme un autre match en soi. Et on verra jusqu'où ça nous mène, mais c'est très important, effectivement, de, comme dit M. Gognat, de penser que c'est un autre championnat qui recommence et toutes les équipes peuvent avoir un visage très, très différent quand elles sont boostées par le mode play-off.
Et on arrive vraiment, pour le moment, à faire abstraction de cette finale de Coupe de Suisse qui arrive?
Ah, complètement. Non, en ce moment, on est complètement focalisé sur la préparation de cette équipe de Lugano qu'il faut battre deux fois dans cette série.
Benoît Gognat, avec quasiment une année de recul, le départ des deux équipes qu'on a évoquées, Volero Zurich et puis Könitz, est-ce que c'est un bien finalement pour le volleyball féminin en Suisse?
Non, je crois qu'on peut pas espérer ce genre de situation qui est quand même particulière, en particulier pour Könitz qui était un grand club dans l'histoire du volleyball suisse. Volero un peu moins, puisque la typicité du club tel qu'il était devenu est différente. Mais je crois que non, on peut pas souhaiter ce genre de choses. On peut au contraire que souhaiter que la Ligue revienne avec un nombre d'équipes comme il est prévu à l'origine.
Oui, on va y revenir un peu plus tard, effectivement, dans cette émission. Peut-être de votre côté, Joe Gutknecht, il y avait deux locomotives, en tout cas Voler-Zurich, qui attiraient pas mal l'attention la saison dernière. Vous sentez un manque d'attrait, du coup, cette saison ?
Non, pas du tout. Je pense que le côté championnat ouvert est un autre atout pour notre sport. Le départ de Voler-Zurich fait partie de leur choix. Les autres clubs de Suisse n'ont pas eu une quelconque influence sur cette décision. Maintenant, notre championnat, il est ce qu'il est. Et je pense que le côté ouvert, possibilité pour plusieurs clubs de prétendre à des places d'honneur, est quelque chose de très attractif pour le public.
Vous parlez d'un championnat plus ouvert. Il y a quand même deux équipes, Guin et Esch, qui se sont détachées, qui ont clairement dominé la saison régulière.
Oui, mais tout en perdant régulièrement des matchs contre les autres équipes. Donc, je pense que, encore une fois, en mode play-off, beaucoup de choses sont possibles et chaque équipe a sa carte à jouer.
Ces play-offs, ces séries finales, il y a un format un peu particulier quand même. Au meilleur des trois matchs en quart de finale, ça peut aller très très vite du coup. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir là dans le format, dans la formule de ce championnat pour avoir de vrais play-offs, une vraie fête du volleyball féminin un peu plus sur la durée ?
Bah, la conférence de la Swiss Volley League a justement mis en place un comité qui réfléchit à un modus différent et aussi une task force qui essaye de définir les principes et les objectifs prioritaires d'une Liga comme la nôtre en Suisse. Donc actuellement, on doit vivre avec ce modus. Personnellement, je regrette de façon assez importante le match 1 et 2 sur le même week-end. Ça, je l'avais signalé à Swiss Volley dès la sortie du modus en juin l'année passée. Surtout qu'avec un week-end de libre la semaine suivante, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais voilà, chaque équipe a les mêmes contraintes et ce sera tout aussi fair-play dans les quatre matchs.
Ouais, parce que dans la suite, il y a des séries de classements hein, pour les perdants de ces quarts de finale. Benoît Gonia, là, c'est un peu du remplissage, il faut le voir comme ça ?
Non, parce qu'il y a la place de Coupe d'Europe éventuelle qui est à décrocher au cas où, donc ça c'est une chose importante. Moi ce que je regrette plutôt, c'est pas tellement ces places de classement qui peuvent se jouer au meilleur des trois matchs, peut-être justement sur un régime concentré. Par contre ce que je regrette, c'est effectivement plus d'espacement sur les matchs qui comptent vraiment, les matchs de finale, quart de finale, demi-finale, qui à mon avis devraient déjà toutes se jouer sur cinq matchs. D'autant plus que maintenant, le championnat est beaucoup plus serré. Comme le dit Joe Gutknecht, effectivement, cette saison, on pourrait assister, j'imagine, à des séries palpitantes sur cinq matchs. C'est le minimum à ce niveau-là du jeu, à mon avis.
Et puis, si on se tourne rapidement vers l'avenir, cette Liga féminine devrait retrouver un championnat plus large dès la saison prochaine. On parle de Val de Travers et de Toggenburg qui sont sur le point de faire passer le nombre d'équipes de 8 à 10. Alors, pourquoi est-ce que, finalement, ce serait une bonne nouvelle, ces deux promotions-là, pour le volleyball féminin ?
Bien, ça serait déjà un championnat complet, on va dire, avec un tour de relégation. Et puis, plus d'enjeux dans le tour qualificatif, dans le sens où il faut lutter pour éviter les deux dernières places et puis risquer éventuellement une relégation. Donc, dans ce sens-là, ça serait tout à fait normal. 10 équipes, ça me paraît une bonne chose. Et en plus, s'il y a une parmi ces équipes, une romande et puis une autre suisse-allemande, avec des clubs qui sont réputés pour être au niveau de Ligue B, voire Ligue A, en volleyball depuis de nombreuses années, moi, je pense que c'est très intéressant de pouvoir encore étoffer ce championnat et puis le rendre plus crédible encore.
Vous le dites, une romande, même une équipe de l'Arc Jurassien, trois clubs dans l'élite pour l'Arc Jurassien, il y a véritablement la place ?
Mais bien sûr, je crois qu'on l'avait vu à l'époque avec Bienne, Neuchâtel et puis nous. Je crois que ça crée une dynamique, ça sert le volleyball dans tout l'Arc Jurassien. Qui a toujours été attaché au volley avec de grands résultats à des moments donnés, fréquents, on va dire. Et je pense que là, avec trois équipes de nouveau dans l'Arc Jurassien, plus Esch, qui n'est pas très loin, qui est aussi quelque part un prolongement de l'Arc Jurassien, je pense qu'on aurait vraiment quelque chose de très intéressant au niveau volley, comme au hockey d'ailleurs dans l'arc jurassien.
Et pour le canton de Neuchâtel plus particulièrement, Joe Goodknecht, deux clubs de volleyball féminin en Liga, c'est pas trop ?
C'est peut-être beaucoup, mais effectivement, si Val-de-Travers a l'ambition de préparer une équipe pour ce niveau de jeu, eh bien, on ne peut pas s'opposer à l'idée de derby qui peuvent être sportivement intéressants, financièrement intéressants et au niveau du public très certainement palpitants.
Eh bien, on se réjouit de vivre tout cela avec vous dès la saison prochaine et dès demain pour ces play-offs. Benoît Gognat, Joe Goodknecht, un grand merci d'être passé dans nos studios, au téléphone aussi, pour ce Cap Sport et les play-offs du championnat de Liga, donc on le rappelle, qui commence demain. Le NUC qui accueille Lugano à 17h30, alors que le VFM va rendre visite à Conti Chafouz à 16h30. Bon match et puis bon week-end à vous.
Merci.
Bon week-end.
Jusqu'à 19h, Cap Sport.
Il rentre de Russie, des étoiles plein les yeux. Plusieurs athlètes de l'arc jurassien ont pris part aux universiades d'hiver à Krasnoïarsk en Sibérie. Ces Jeux olympiques pour étudiants ont pris fin en début de semaine. 3000 athlètes présents sur place, une cérémonie d'ouverture et de clôture. Bref, une sacrée expérience humaine. Une expérience qu'ont pu vivre de l'intérieur Mathieu Fleury et Yannick Rebetet. Le premier défenseur des juniors élites du HC Bienne a porté le maillot de l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Le deuxième a été juge de ligne dans le tournoi et forcément il rentre avec des souvenirs plein la tête. Yannick Rebetet.
La cérémonie d'ouverture, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui restera jamais gravé dans ma mémoire, mais c'est vraiment quelque chose de grandiose. L'organisation a vraiment mis les petits plats dans les grands. Ça arrive une fois dans sa vie, et puis on peut aussi s'imaginer de l'importance de cette cérémonie juste par le fait que notamment Vladimir Poutine ait été présent à cette cérémonie d'ouverture.
C'est un peu quelque chose de comparable vraiment à une cérémonie de Jeux Olympiques qu'on pourrait voir à la télé ?
Alors oui, tout à fait. En ayant discuté avec deux de mes collègues arbitres qui ont, eux, vécu les Jeux Olympiques, les vrais, ils m'ont dit que c'était exactement similaire à de vrais Jeux Olympiques. C'est juste qu'on n'y retrouve pas les stars que l'on pourrait connaître dans ces JO standards, mais on trouve des universitaires de 17 à 25 ans qui sont peut-être les futurs stars de demain.
Mathieu Fleury, voilà, peut-être futur star de demain, comme le dit Yannick. Vous, l'image que vous allez garder de ce périple en Russie, c'est laquelle ? Difficile d'en ressortir qu'une seule.
Absolument. Il y a tellement de bons moments à dégager de ces deux semaines et demie que c'est vraiment compliqué. La cérémonie d'ouverture, j'en garde également des souvenirs très forts. Mais ce qui m'a interpellé aussi, c'est l'enthousiasme des gens autour de ces joutes. L'attrait que cela a produit chez le public russe. Et par exemple, nous avons évolué devant 2500, 3000 personnes certains matchs. Et c'est vraiment une ambiance que je ne connaissais pas du tout. Et c'est cette ambiance-là, cette image-là que je retiens.
Un public essentiellement russe ou vous avez vu quand même quelques drapeaux suisses parfois dans les tribunes ?
Essentiellement russe, en effet, mais certains parents de joueurs ont fait le déplacement afin de venir nous voir évoluer.
Ouais, parce que vous avez porté le maillot de l'équipe de Suisse hein, durant ce tournoi, équipe de Suisse de hockey sur glace. Quel était le niveau de jeu dans ce tournoi, vos adversaires, l'équipe de Suisse ?
C'est dur à dégager un niveau de jeu global, étant donné qu'il y avait des équipes très fortes. Je pense notamment à la Russie, à la Slovaquie, au Kazakhstan ou encore au Canada. Mais il y avait également des équipes avec un niveau moins bon, comme la Suède ou encore la Grande-Bretagne.
Alors on parle aussi souvent d'une expérience humaine pour ce genre d'événement. Qu'est-ce qu'on en retire quelques jours après être rentré en Suisse ?
Des souvenirs incroyables, des rencontres inoubliables, mais également des connaissances que nous allons revoir, avec qui nous allons garder contact, parce que nous avons quand même cohabité deux semaines et demie avec nos coéquipiers, avec les autres personnes de la Fédération suisse. Et c'est vraiment une ambiance, une atmosphère qui s'est créée afin de vivre ensemble ces deux semaines de compétition le mieux possible.
Et puis on découvre aussi d'autres sports. On peut partir un peu comme ça à la découverte. On n'est pas focus sur le hockey sur glace pendant deux semaines.
Absolument. J'ai découvert plusieurs sports, par exemple le short track, le patinage de vitesse, ou encore le ski acrobatique, qui sont des disciplines absolument éblouissantes à voir en live. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Et c'est vraiment une belle expérience.
Il y a aussi des découvertes de ce type-là de votre côté, Yannick Robotet ?
Alors en matière de rencontres avec certaines personnes, bien sûr, parce que là, il faut dire que j'étais le seul Suisse, donc je me suis retrouvé avec... on était 18 arbitres, donc je me suis retrouvé avec 17 autres personnes qui viennent du monde entier. C'est intéressant de voir aussi une autre culture, de découvrir une autre culture du hockey sur glace. Par exemple, je me suis retrouvé avec un collègue qui était japonais, un collègue qui était chinois, un collègue américain, canadien, finlandais, enfin voilà. Et puis, ça reste des rencontres qui marquent, parce qu'il y a certaines amitiés qui se sont créées. Et puis, à la fin, quand on s'est tous quittés, bah, c'est clair, c'était « Ah bah tiens, toi, si tu viens à Los Angeles, tu me dis, parce qu'on peut organiser quelque chose. » Moi-même aussi, je vais inviter un collègue letton ici en Suisse prochainement. Et puis, lui va aussi m'inviter du côté de Riga. Donc, on a vraiment créé des bons contacts avec quelques personnes. Et puis, ça restera aussi à jamais marqué dans ma mémoire.
Et les prochaines Universiades d'hiver, ce sera en Suisse. Oui, rendez-vous dans 2 ans du côté de Zoug et Lucerne pour vivre cet événement palpitant.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
On termine cette émission à 200 à l'heure. Ce week-end marque le début de la saison de Formule 1. Premier Grand Prix ce dimanche en Australie. Une saison prometteuse sur le papier, entre nouveautés dans les règlements, mouvements dans les baquets, et puis changement de motoriste, voire de nom carrément pour certaines écuries. Alors on va y voir un peu plus clair grâce à vous, François Comte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre spécialiste maison de la F1. Premier changement, il est esthétique mais aussi technique, en tout cas certainement technique, des ailerons avant et arrière simplifié, plus large. Est-ce qu'on va avoir plus de déplacements, de dépassements grâce à cette évolution ?
Ben c'est en tout cas le but recherché par la FIA, c'est-à-dire que les changements touchent surtout les ailerons avant, qui pour le coup ont vraiment été simplifiés. Il y avait plus de 40 éléments différents jusqu'à présent sur un aileron de Formule 1. Là, on va passer à 5 maximum de chaque côté. Donc vous voyez la simplification. Et tout ça, en fait, c'est pour des questions d'aérodynamique, parce que les ailerons étaient devenus tellement performants que ça modifiait le flux d'air, et les voitures qui suivaient juste derrière étaient dans un flux d'air qui était ce qu'on appelle un flux d'air sale. Donc elles avaient de la peine à suivre la voiture. Ça provoquait une usure des pneus prématurés. Donc ce qui fait que certains pilotes n'étaient peut-être pas tentés de rester trop longtemps dans le sillage d'un autre, parce que leurs pneus allaient se dégrader, ils n'allaient peut-être pas pouvoir forcément dépasser, et si les pneus se dégradent plus vite, on doit peut-être envisager un arrêt supplémentaire. Donc c'est un peu compliqué. Donc tout ça, ça devrait provoquer plus de dépassement. Certains directeurs d'écurie en doutent un peu déjà. Et puis le DRS, le système à l'arrière qui permet à la voiture d'ouvrir l'aileron arrière, le DRS sera aussi plus performant, 25% plus performant, donc théoriquement, plus de dépassements aussi.
On va voir ce que ça va donner en course. Effectivement, des changements qui semblent, en tout cas pour le moment, pas forcément perturber Mercedes et Lewis Hamilton. Il est déjà devant lors des essais libres ce matin en Australie. Il n'y a que son coéquipier finalement qui rivalise, en tout cas sur la deuxième séance. Est-ce qu'on est reparti pour une domination du Britannique ?
Bon, on peut aussi attendre. Et puis, Lewis Hamilton, c'est de toute façon le grand favori de cette saison. Alors bien sûr, après, il y aura Ferrari derrière. On pense en particulier à Sebastian Vettel. Alors, on a bien vu lors des essais libres que Lewis Hamilton, manifestement, a voulu marquer les esprits, voulu dire à tout le monde « Je suis là, je suis le champion du monde, donc on ne pourra pas faire non plus n'importe quoi ». Pendant les essais d'hiver, c'est plutôt Ferrari qui a dominé, mais d'assez peu. On est déjà dans la guerre psychologique, en fait. Lewis Hamilton a voulu faire passer ce message en réalisant les deux meilleurs temps, parce qu'en essai libre, on essaye des configurations différentes, mais là, il a voulu montrer qu'il était là. Et puis, il avait déclaré lors des essais hivernaux à Barcelone que Ferrari était une demi-seconde plus vite que Mercedes. Et juste après, il est monté dans la voiture et il a terminé à 3 millièmes du meilleur temps de Sebastian Vettel. Tout ça, c'est de la guerre psychologique. Vettel, lui, aujourd'hui, a déclaré « Ah bah oui, bah Mercedes va plus vite que ce qui est attendu ».
L'intimidation est lancée. Au niveau de la hiérarchie, qu'est-ce qu'on peut attendre derrière Lewis Hamilton? Il y a eu passablement de changements chez Ferrari avec l'arrivée de Charles Leclerc, chez Red Bull aussi avec l'engagement de Pierre Gasly. Ça, c'est suffisant pour un peu titiller le Britannique ou en tout cas pour essayer de rabattre un peu les cartes derrière le Britannique?
En tout cas, ça va mettre de l'animation, ça c'est sûr, parce que tant Gasly chez Red Bull que Charles Leclerc, ils auront leur preuve à faire, c'est des jeunes qui ont les dents longues. C'est surtout pour leurs coéquipiers que ça pourrait être dangereux, parce qu'on sait que la particularité de la Formule 1, c'est un sport où votre premier adversaire, c'est votre coéquipier. De ce côté-là, Lewis Hamilton, il me semble un peu plus tranquille. Valtteri Bottas, pour le moment,
c'est un bon coéquipier.
Voilà, va pas trop ruer dans les brancards face à lui. Donc, pour le titre, ça reste quand même les deux grands favoris, Lewis Hamilton et puis Sébastien Vettel. Pour Vettel, en revanche, l'aiguillon Leclerc, un jeune qui en veut, qui a les dents longues, encore une fois, qui va très vite, il l'a montré la saison passée avec Sauber, ça va aussi le pousser à vouloir aller plus loin, à montrer que le petit jeune, il n'est pas aussi rapide que le pilote expérimenté. Ferrari fait aussi un pari avec Leclerc, puisqu'en règle générale, la Scuderia n'engage pas de pilote aussi jeune et aussi inexpérimenté.
Un petit mot sur l'écurie suisse Sauber. On ne va plus la connaître sous ce nom-là, en tout cas cette saison, remplacée par Alfa Romeo. Est-ce que c'est la fin de Sauber et de sa base historique à Hinwil en Suisse, une écurie suisse sur le plateau de la F1?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a un savoir-faire qui a été développé à Hinwil. L'usine d'Hinwil possède notamment une soufflerie ultra-moderne. Donc on imagine mal que tous ces équipements soient transférés dans un autre pays. Là, en l'occurrence en Italie pour Alfa Romeo. Et puis, Alfa Romeo et Ferrari font partie du même groupe, le groupe Fiat. Donc, on imagine mal qu'on va comme ça doubler les coûts. Ça paraît assez impossible. Donc, en tout cas, pas à court terme. À moyen long terme, on ne sait jamais ce qui peut se passer en Formule 1. Tout coûte très très cher. Il suffit de faire une ou deux mauvaises saisons et puis ça peut être compliqué.
Mais on le comprend, il y a clairement des qualités, de la technique aussi du côté d'Hinwil et ça peut avoir son importance.
Bien sûr, puisque Sauber est quand même en Formule 1 depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors, avec des moyens limités. L'argent, c'est aussi le nerf de la guerre en Formule 1. Sauber, enfin maintenant Alfa Romeo, c'est 400 à 450 employés pour l'écurie de Formule 1. Ferrari ou Mercedes, c'est 950. On les estime, on n'a pas le chiffre précis, mais c'est 950 à 1000. Donc, on ne court pas tout à fait dans la même catégorie.
François Comte, vous êtes notre spécialiste maison de la Formule 1. Eh bien, merci pour cet éclairage. Premier Grand Prix du championnat, c'est donc dimanche matin en Australie. Merci d'être passé, puis belle saison à vous.
Merci, on espère effectivement une belle saison et puis un duel Mercedes-Ferrari. Ferrari ne peut pas se louper après la saison, on va pas dire catastrophique, mais quand même très 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 délicate de l'an passé.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Cap Sport. Merci à Jean-Michel pour la réalisation de cette émission. Vous retrouvez toutes les précédentes émissions en podcast sur notre site internet. Excellent week-end.
Cap Sport.